bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Oui, le drame a commencé, le premier épisode a été entamé avec la naissance du Baptiste, la naissance mystérieuse, la naissance pleine de signification de Jean. Luc nous a mis tout de suite au parfum, puis-je dire, de la façon qu'il aura de nous rapporter toutes ces informations qu'il a recueillies au cours de ses enquêtes. Marie a débarqué chez Élisabeth sans crier gare. Les caravanes qui partaient du nord, suivant la route du littoral, descendaient jusqu'en Égypte depuis les confins de la Syrie actuelle et ce coin où se trouvent Antioche et Iskendrome à l'heure actuelle. Que vont dire, que vont se raconter, que vont se confier les deux cousines, la vieille cousine Élisabeth, la jeune cousine Marie, qui, mise en mouvement par l'esprit de l'histoire sacrée, de l'histoire de Dieu avec les hommes, se trouve sous la treille, ce soir-là, à Aïn Karem.
Sans attendre, elles s'assirent sur la grande treille qui couvrait tout l'auvent de la maison. Et tandis que montait l'étoile du berger dans la soirée bleutée du printemps précoce, Marie et Élisabeth, en chuchotant, se confièrent les mystères et les espérances de leur maternité. « Comment as-tu su que j'attendais un enfant à mon âge ?» demande Élisabeth. « Oh, comment t'expliquer ?» répondit Marie. « C'est une voix que j'ai entendu, il y a quelque temps chez moi à Nazareth. Et cette voix me disait des choses extraordinaires, que Dieu était avec moi et que bientôt le Fils de Dieu serait en moi et que je devrais l'appeler Jésus. Et beaucoup d'autres choses encore que je n'ai pas très bien compris sur sa vie et sur son règne. Et comme je m'en étonnais, puisque je ne suis pas encore mariée avec Joseph, on m'a donné comme preuve, toi ma cousine, qui, comme je le constate effectivement, attends un enfant, malgré ton âge. Ah, Élisabeth, que tout cela est mystérieux, mais que je suis heureuse. » Elles se serrèrent l'une contre l'autre. Pourtant, Marie continua. « Mais comment as-tu deviné que moi aussi j'attends un enfant, je ne suis qu'au début ?» Alors Élisabeth, les yeux pleins de larmes à cause de sa propre incompréhension, répondit. « Marie, je n'en sais rien. Je sais seulement que j'en suis sûre, et que le fils que tu portes est le fruit de la promesse que Dieu a faite à son peuple. Marie, j'ignore ce qui nous arrive. J'ignore ce qu'il adviendra au juste de nos enfants. Tout ceci nous dépasse. Que Dieu nous protège !» Marie pencha sa tête sur l'épaule d'Élisabeth. Elles ne dirent plus rien. Élisabeth prit la main de Marie et la plaça sur son ventre. L'enfant était là, bien vivant. La jeune Marie sentit monter et grandir en elle tout un peuple de souvenirs. Depuis Abraham, l'araméen, jusqu'au petit Jean qui remuait. Puis elle sombra dans le sommeil, vaincue par la fatigue du voyage. Marie resta avec Élisabeth jusqu'à l'accouchement. Quelle joie quand on vit que c'était un garçon. Tout le village se réjouit avec Élisabeth. Et on prépara le baptême qui devait avoir lieu 8 jours après. Tout le monde s'attendait à ce que l'on appelle Zacharie, comme son père. Mais Élisabeth dit « Non, il s'appellera Jean. » Les voisins répliquèrent « Mais dans ta famille, personne ne s'appelle Jean. » On se retourna alors vers Zacharie, qui réclama une tablette, et il écrit sur la tablette « Jean ». Et tous de s'étonner, mais soudain sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et Zacharie se mit à danser et à chanter pour remercier Dieu. Vous imaginez la panique des voisins devant la cascade d'événements que l'on commenta longtemps dans les collines des alentours. Et chacun se demandait « Que sera donc cet enfant ?» L'esprit sembla alors tomber sur Zacharie, qui se mit à improviser un chant de fête. « Le Seigneur est béni, vive le Dieu d'Israël, qui rend visite à son peuple pour le ramener près de lui. Il fait sonner pour nous les trompettes de la vie dans la maison de David, son enfant. Il l'a promis depuis toujours par la bouche sainte de ceux qui l'inspirent, le salut qui nous sauve des mains de nos ennemis. Il vient faire la paix avec notre race. Il ne peut oublier l'alliance sacrée, son serment juré à Abraham, notre père, délivré de la guerre ou de la peur, que nous soyons à son service, revêtus devant lui de sainteté et de justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, ton nom sera prophète du Dieu sublime. Oui, tu monteras devant lui pour lui ouvrir la route et préparer son peuple au salut qu'il lui offre quand il pardonne. Dans son amour fou, il viendra tout droit dans le soleil levant se montrer au gisant de la mort obscure et conduire nos pas sur un chemin de paix. Il se passait en effet des choses étranges. Puis tout sembla rentrer de nouveau dans l'ordre, du moins pendant un certain temps. Car d'après ce qu'on dit, dès que Jean fut assez grand, il quitta la maison de ses parents pour aller dans le désert, où d'aucuns l'apercevaient de temps à autre, vêtu d'une peau de bête, priant et méditant dans le silence et la solitude. Chacun avait le sentiment que Jean se préparait à quelque chose. Mais à quoi ?
Ainsi, comme nous l'avons entendu, entre ce que nous appelons le Magnificat, d'une part, et puis le dernier texte, improvisé d'après ma narration de Zacharie, nous avons à la fois tout le résumé de l'Ancien Testament et l'annonce déjà de ce Nouveau Testament qui est la vie de Jésus. Vous sentez combien ces épisodes sont des liturgies, dirait-on maintenant, de la parole. Et tout en étant placé à l'intérieur de ce tissu narratif qui est la méthode de Luc, il n'en sent pas moins le témoignage d'une organisation du culte déjà, dans lesquelles cet épisode de la rencontre d'Élisabeth et de Marie sont en fait comme une introduction au mystère dans lequel Dieu va plonger ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire l'Église qui est en train de naître ici, cette double fécondation d'un précurseur et du prophète, du dernier, de Jean et de Jésus. Devrais-je encore insister sur la délicatesse, la subtilité et en même temps toute la tendresse qui se dégage de la façon dont Luc rapporte ces épisodes? La construction elle-même, l'élaboration du récit, les petites notes qui nous font sourire ou au contraire qui nous surprennent, la vivacité du récit avec lequel, à la naissance même, le prénom doit être choisi. Et tout d'un coup, la parole qui est rendue à Zacharie et qui, d'un seul mot, règle la situation. Jean, dit-il. Il s'appellera Jean, un seul mot, écrit sur la tablette, parce qu'il ne sait pas encore qu'il va se remettre à parler. Oui, les événements qui se préparent, imaginez ce petit village, ne peuvent entretenir une certaine appréhension, une crainte. Je répète, la situation est difficile. Nous sommes en pleine occupation romaine. Et le moindre événement qui puisse mettre en péril l'ordre public serait automatiquement taxé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Or, c'est bien ce qui va se passer. L'atteinte à la sécurité intérieure de l'État des choses, en tout cas, puisque quelque chose est mis en route et qui va se développer. Vivre des événements de cette sorte, c'est le fait de chaque existence, parce que dans chaque existence, il y a à un moment donné un changement de l'état des choses, dû à, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effraction de Dieu à l'intérieur d'une existence. Il n'avertit pas, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas, que le Fils de l'homme viendra. Dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie, dans la vie de Marie et de Joseph, voici que ce double événement du précurseur et de Jésus vont entamer, vont inaugurer, vont lancer sur les routes de l'histoire l'aventure évangélique.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.